c'est une petite révolution qui s'est opérée le 19 mars. Le pape François a en effet publié une nouvelle constitution, Praedicate Evangelium, qui signifie « annoncer l'évangile ». Ce texte apporte des modifications majeures dans l'organisation des services romains du Saint-Père. Pour comprendre l'importance de la réforme de la curie, Monseigneur Xavier Darode est notre invité. Bonjour Monseigneur.
Bonjour à tous.
Vous êtes délégué provincial à la protection des mineurs et des personnes vulnérables et ancien diplomate près le Saint-Siège. Merci beaucoup de votre présence ce matin. Rivalité, vanité, Alzheimer spirituel, ces mots sévères du pape François en décembre 2014 annonçaient la nécessité de réformer le gouvernement de l'Église. Qu'est-ce qu'il était nécessaire de changer, Monseigneur ?
Eh bien, voyez-vous, la curie romaine est une vieille institution. Un certain nombre de ces éléments remontent déjà au IVe siècle. Alors évidemment, il y a eu cette grande structuration sous Sixte V au XVIe siècle. Mais la curie romaine est une vieille dame et parfois il est nécessaire donc de la réformer. C'est ce qu'avaient demandé très clairement les cardinaux avant l'élection du souverain pontife en 2013, et ils avaient demandé qu'un certain nombre de réformes puissent être introduites. Donc le pape François a depuis créé un groupe de cardinaux qu'on avait appelé le C9, qui eut 9 cardinaux qui étaient autour de lui et qui étaient donc là pour essayer de mettre en œuvre une réforme la plus efficace, adaptée en fait la curie romaine aux défis du monde contemporain et aux défis de l'Église, que l'Église rencontre.
Donc il fallait être peut-être plus en prise avec le monde. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas aussi un changement de posture ? Vous me disiez en préparant cet entretien que maintenant les services du gouvernement de Rome étaient plus dans l'anticipation. Est-ce que vous pouvez nous préciser
C'est-à-dire que cette réforme, si vous voulez, est une réforme qui est dans la grande continuité de l'Église, si vous voulez. Toujours cette devise de l'Église, Ecclesia Semper Reformanda, c'est-à-dire l'Église doit, pour retrouver toujours le message évangélique et sa profondeur, toujours être dans une réforme qui lui permet de retrouver ses racines et les sources fécondes du message même du Christ. Alors, effectivement, on a une adaptation peut-être du modèle romain qui était très très imprégné justement de cette logique de droit romain vers une prise en compte de nouveaux modèles peut-être plus anglo-saxons. En ce sens-là, il y a une adaptation et puis il y a des grands axes hein, aussi qui se font jour. Sur l'évangélisation, sur la charité, sur la défense de la foi. Et donc ça, on aura certainement l'occasion d'en parler. Mais il y a des axes qui sont donnés et qui montrent que l'Église doit être dans un message renouvelé, retrouver en fait la profondeur de son message. Je crois que au-delà d'une réforme bureaucratique, ce qui n'est pas l'objet, en l'occurrence, c'est d'abord une réforme spirituelle, et c'est là, cela montre du coup l'ampleur de ce qui est entrepris. Cette réforme spirituelle, naturellement, passe par une réforme des structures, des modes de gouvernement et des modes de fonctionnement.
Une réforme spirituelle basée sur l'Évangile, puisque le titre de cette réforme est « Annoncer l'Évangile », je le disais en introduction. Cette évangélisation, comment les structures de gouvernement peuvent-elles favoriser ce souci premier de l'annonce de l'Évangile ?
Alors, très simplement, le pape François, dans la réforme qu'il propose, c'est la constitution apostolique, ce sont quand même 54 pages de documents officiels. C'est extrêmement rare qu'il y ait une constitution apostolique sur la curie romaine. Pour que les auditeurs comprennent bien, au cours de 2000 ans d'histoire, il n'y a eu que 4 réformes de cette constitution apostolique. Donc c'est quelque chose de tout à fait fondamental qui est en train de se produire. Le pape a désormais décidé de mettre au premier rang, en exergue, cette activité missionnaire de l'Église. Il dit dans la Constitution, le plus grand service que l'Église puisse rendre au monde, c'est d'annoncer la miséricorde, la charité et la foi. Et donc, voyez-vous, on se rend bien compte que du coup, il met l'Église en ordre de bataille pour pouvoir annoncer le message du Christ et non pas pour annoncer une quelconque puissance matérielle ou temporelle. On n'est pas là pour défendre un territoire, défendre une idéologie, on est là pour annoncer le message même du Christ. Donc, il transforme du coup les organismes de la Curie, notamment la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, Propaganda Fidei, qui était l'une des principales congrégations. Désormais, il fusionne cette congrégation avec la nouvelle évangélisation. Et donc, on a à la fois un grand dicastère de l'évangélisation qui touche à la fois les vieux pays de chrétienté, je dirais, l'Europe, l'Occident, et également les nouveaux pays ou les églises plus jeunes. Et donc l'idée est de pouvoir donner un élan renouvelé à cette évangélisation à travers ce nouveau dicastère pour l'évangélisation. C'est tout à fait emblématique. Et c'est vraiment, je crois, la tonalité fondamentale qui résonne à travers toute cette constitution apostolique sur la réforme de la Curie. Il nous faut être missionnaires.
Outre l'évangélisation, autre emblème, c'est ce service de la charité qui a été créé. Il vient renforcer un organe préexistant qui s'appelle l'aumônerie apostolique. Qu'est-ce que ce changement vient signifier ?
Eh bien, c'est dans la même continuité. C'est-à-dire que cette évangélisation, elle ne pourra se faire que par le témoignage que nous pourrons donner de notre foi. C'est-à-dire le témoignage à la fois par les mots, par le contenu doctrinal de notre foi, mais également par notre action caritative. Que nous servirait d'avoir simplement une foi qui n'arrive pas à s'exprimer justement à travers les œuvres de charité. C'est ce que l'apôtre Jacques disait, montre-moi ta foi par les paroles, moi je te la montrerai par mes actes et en vérité. Et donc c'est extrêmement intéressant de voir que le pape François met justement au cœur de cette réforme, cette triade d'évangélisation, de charité et de foi. Puisque donc le dicastère pour l'évangélisation, le dicastère de la charité et le dicastère de la foi constituent le socle même de la Curie romaine.
Outre ce socle, une plus grande place sera faite aux laïcs hommes et femmes. Pour une période définie, ils pourront diriger un organisme de la Curie romaine appelé dicastère. Quelles sont les qualités requises pour remplir ces nouvelles fonctions, Monseigneur ?
Alors, ça y est, c'est l'un des bouleversements, je dirais, de ce texte. C'est que désormais, qui que l'on soit, c'est-à-dire que l'on soit tout fidèle, qu'il soit clair ou laïque, homme ou femme, peut désormais travailler ou diriger un dicastère. Et donc cela marque une rupture profonde par rapport au passé où seuls des clercs pouvaient accéder à des postes de responsabilité ou de gouvernement. Et donc on a l'accent désormais qui est mis sur la professionnalisation de la Curie, mais également aussi sa diversité. C'est donc pour cela que on demande à ce qu'il n'y ait pas de monopolisation des postes. Je pense par exemple à des figures éminentes de l'Église, le cardinal Casaroli par exemple, qui a passé plus de 50 ans au service de la Curie romaine. Le pape dit effectivement ce sont des figures éminentes, mais il est nécessaire aussi pour la vitalité de l'Église qu'il y ait plus de renouvellement et que ce renouvellement se fonde non pas sur des privilèges, des positions, mais sur une vraie compétence. Et donc, on va voir très vraisemblablement dans les années à venir une façon un recrutement, une façon de travailler qui sera différente. On l'a déjà vu, notamment par la nomination de nombreuses femmes dans des postes de responsabilité au sein de la Curie. Désormais, c'est quelque chose qui est profondément acté par le pape François, parce que ces personnes-là ne tiennent pas leur pouvoir du fait du sacrement de l'ordre, du fait de l'ordination, mais parce qu'ils sont au service du ministère du pape.
Et donc là, il y a quelque chose de tout à fait nouveau.
Pardon ?
Et parce qu'ils ont les compétences requises.
Bien sûr, bien sûr. Oui. C'est l'un des éléments. Donc, non seulement il faut qu'ils aient ces compétences, mais il faut également une intégrité personnelle, et le pape insiste beaucoup là-dessus, et une capacité, effectivement, à travailler de façon collaborative, de façon synodale, je dirais, pour reprendre un terme d'église.
Alors justement, vous parlez de synode. L'église est entrée depuis septembre 2021 dans le synode sur la synodalité. Ce temps d'écoute, de dialogue et de discernement est actuellement en cours dans tous les diocèses du monde, et le document final sera délivré par Rome en octobre prochain. Est-ce que cet événement est à mettre en lien avec la réforme de la Curie ?
Ah, je pense que c'est indéniable. C'est-à-dire que dans les congrégations générales, donc qui ont précédé l'élection du souverain pontife en 2013, clairement, c'était les cardinaux ont demandé une nouvelle façon de travailler, de nouvelles relations dans l'exercice même du pouvoir et de la collégialité au sein de l'Église. Et donc, même si l'expression est difficile à comprendre en français, ce synode sur la synodalité, on a l'impression qu'il y a une redondance dont on ne comprend pas tout à fait la portée. En fait, c'est de s'interroger sur la façon même dont doivent s'organiser les choses, doivent fonctionner les choses dans un fonctionnement ecclésial. Ça ne peut pas être simplement, un pouvoir autoritaire. Il y a toujours eu dans le fonctionnement de l'Église, je dirais, deux tendances. Cette tendance pétrinienne, qui est donc issue de Saint-Pierre, qui est l'affirmation de l'autorité et du pouvoir suprême du pape, mais également cette inspiration paulinienne, c'est-à-dire ce souffle spirituel, charismatique, qui fait que, de fait, il y a une vitalité de l'Église qui se repose sur ces deux poumons, ces deux piliers de l'Église. Donc, cette réforme de la Curie romaine, elle s'inscrit très profondément dans cette réflexion sur la synodalité, et elle pose notamment, cette réforme pose donne une place tout à fait particulière aux conférences épiscopales, dont le rôle, dont la mission n'avait pas été très clairement définie, en particulier l'autorité sur les évêques qui en dépendent. Et donc, très vraisemblablement, cela fera l'objet d'une réflexion lors du prochain synode en 2023. Ça, on le voit émerger. Donc, ça sera extrêmement intéressant à voir. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que cette réforme de la Curie romaine est un des éléments de la grande réforme spirituelle, du grand renouveau que le pape François essaye d'insuffler dans le fonctionnement même de l'Église.
Merci beaucoup, Monseigneur Xavier Darod, de nous avoir éclairé sur cette nouvelle constitution, annoncé l'Évangile. Merci pour toutes ces précisions qui permettent quand même de comprendre, comme vous le disiez, cette réforme pour la mission.
Merci à tous.